Cube Radio. Yasmine Abdel-Fadel. Une animatrice hors norme, aussi percutante que l'actualité. Grande stratège, elle décortique les messages et analyse les non-dits. Méthodique, elle regarde chaque détail à la loupe.
Cube Radio, Cube Radio.
Surprenante, improbable, décapante. Elle ne laisse personne indifférent. Yasmine Abdel-Fadel.
Bonjour et heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Puis je veux commencer par souligner la décision de cette journaliste vedette de CNN, Christiane Amanpour, qui a refusé de porter le voile pour une interview à New York avec le président iranien Ebrahim Raisi. Ce refus aurait mené à tout simplement l'annulation du face-à-face qu'elle devait avoir avec le président iranien. Et ça, c'est en plein mouvement de protestation en Iran. Ces protestations, puis je trouve qu'on n'en parle pas assez de ces mouvements de protestation. Ça a lieu depuis quelques jours et ils font suite au décès de la jeune Mahsa Amini, une fille de 22 ans qui avait été arrêtée pour avoir refusé de porter son voile comme il faut, d'après la police de la moralité iranienne. Puis là, je me faisais cette réflexion, puis je me disais, écoute donc, qu'est-ce qui se passe dans la tête du monde qui se permet d'exiger qu'est-ce qu'une femme peut porter ou peut ne pas porter? De quel droit l'État ou ses représentants peuvent décider de ce qu'une personne peut porter ou pas, au nom de quelque idéologie que ce soit? Il faut se lever haut et fort contre ces hommes qui obligent les femmes et parfois des fillettes à se cacher leurs cheveux au nom d'une doctrine politique. Et il faut se lever avec la même force contre ceux et celles qui veulent décider de ce que les femmes ont le droit ou pas de porter. Et que l'on vienne pas me dire que si on n'interdit pas le voile, ce qui nous attend, c'est ce qui arrive en Iran. Parce que l'Iran, là, c'est un pays moyenâgeux qui n'est aucunement une référence pour nous ici, qui n'est pas une démocratie, qui ne chérit pas la liberté, qui ne comprend pas ce que c'est la légalité entre les hommes et les femmes et n'a aucune idée de ce que c'est la liberté de conscience. On ne peut que dénoncer qu'un État s'ingère dans la vie de ses citoyennes. Les Iraniennes ont raison de se lever contre la police de la moralité et de dire une fois pour toutes que l'État n'a pas à décider comme elles doivent s'habiller. Et ça s'applique en Iran, ça s'applique au Québec, ça s'applique partout dans le monde.
Vous écoutez Yasmine Abdel-Fadel.
Cube Radio. Cube Radio.
Aujourd'hui, je parle avec Luc Vigneault, conférencier, auteur, accompagnateur et schizophrène. Bonjour, M. Vigneault.
Bonjour, Mme Abdel-Fadel. Ça va bien?
Ça va très bien. Et on vous a invité parce qu'on pense que vous êtes la bonne personne pour nous expliquer comment déceler la maladie mentale puis comment vivre avec la schizophrénie. On le sait, vous l'avez vécu. Racontez-nous votre parcours.
Bien d'abord, vous savez, cette année, moi, j'ai eu 62 ans, puis je vis cette maladie-là depuis l'âge de 17 ans environ. Donc, je peux vous dire que c'est pas un cadeau du ciel du tout, c'est pas évident. Et puis, vous savez, quand la maladie arrive, ce qu'on a en commun, c'est souvent la négation. On reconnaît pas, on dit non, ça se peut pas moi. Moi, je fais partie des intelligents, entre guillemets, donc c'est pas possible que j'ai cette maladie-là, puis subtilement, les hallucinations arrivent, puis pour nous, là, c'est réel, comme je vous parle actuellement. Donc, de me faire dire, c'est pas vrai, c'est dans ta tête, bon, on n'y croit pas. Et hélas, souvent, le premier contact qu'on a avec les soins, bien, c'est la police qui nous amène à l'urgence, puis avec les menottes, puis après ça, moi, j'ai connu ça, là, te faire déshabiller de force, te faire attacher sur un lit avec des sangles.
Parce que vous étiez rendu dans la rue.
Oui, ben j'étais dans la rue, puis j'étais potentiellement dangereux aussi, là. Tu sais, je parlais haut et fort, je criais, etc. Puis les gens étaient inquiets pour moi aussi. Ma famille était très, très, très inquiète. Tu sais, le frère ou le fils qui ont connu si charmant tout d'un coup se met à délirer. Donc, c'est inquiétant, là. Donc, voilà, c'est souvent les premiers contacts qu'on a, c'est pas facile. C'est difficile. Puis après ça, bon, On vit un traumatisme. C'est important de dire, hein, quand on a quand on est happé par les services de force, ben, on vit un traumatisme, puis après ça, ben, on veut pas aller voir, hein, etc. Donc, voilà, moi, comment j'ai vécu. Puis après ça, c'est important, là, j'ai rencontré des gens, bon, qui m'ont parlé d'espoir, de rétablissement, etc. Puis aujourd'hui, moi, ça fait des années, j'ai pas mis pied dans un hôpital à part que pour y travailler, parce que j'ai été parent aidant, je suis patient partenaire, je fais de la recherche aujourd'hui. On peut avoir une belle vie avec la schizophrénie quand on a les bons soins, les bons traitements, qu'on est bien accompagné. Mais pour ça, ça nous prend des outils diagnostiques.
Ben oui.
Il y a eu un article dans le journal de Montréal et de Québec à ce sujet-là. Vous savez, en psychiatrie, il n'existe aucun outil. Il n'y a pas de prise de sang, il n'y a pas de scanner, il n'y a rien. Là. C'est vraiment des observations qu'on fait qui, à suite de plusieurs rencontres, on met un diagnostic.
Mais c'est particulier, ça, parce que le patient, lui, qui souffre de schizophrénie, il n'est pas collaboratif avec le psychiatre, par exemple, qui cherche à le diagnostiquer. Donc, ça rend la tâche plus difficile de diagnostiquer la maladie mentale s'il n'y a pas d'outils comme celui dont vous allez nous parler dans quelques instants.
Ben exactement. C'est malheureusement le cas de plusieurs gens. Vous savez, la schizophrénie paranoïde, qui est une forme sévère de la schizophrénie que j'ai. La schizophrénie affective, où les gens sont moins dans la paranoïa, etc. Mais quand tu paranoïas profondément, puis tu es convaincu qu'il y a des microbes cachés partout, puis que le psychiatre, ben, il fait partie d'un complot international pour nous contrôler, ben c'est dur de créer une alliance. C'est extrêmement difficile, donc ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Souvent, même, il y a des gens qui disent « Moi, j'ai des micros dans la tête, j'ai des qui me surveillent partout. » Fait que souvent, on fait passer un IRM au patient en disant, gars, il n'y en a pas de micro. Fait que, tu sais, c'est une preuve qui nous aide à aller de l'avant. Fait que, donc, si on peut avoir enfin un outil diagnostique qui va nous aider à aller de l'avant, mais tant mieux. Mon Dieu, qu'on va sauver du temps, on va sauver des peines, on va sauver beaucoup, beaucoup de troubles humains. Puis, de l'argent aussi, il faut le dire. Vous savez, moi, là, je travaille, je paye mes taxes, j'ai une vie extraordinaire, là. Donc, je coûte moins cher, guillemets, en société, là, mais donc, c'est tout ça là, qu'il faut tenir compte.
Ben, oui. Parlons de cet outil diagnostique. En fait, c'est un appareil développé par l'entreprise Diamantis qui envoie des flashs lumineux dans la rétine et qui voit comment les signaux sont envoyés dans le cerveau. Ça permettrait, juste avec un simple examen des yeux, de pouvoir potentiellement voir s'il y a de la schizophrénie ou une dépression majeure. C'est quand même gros, ça.
Écoutez, ça semble même sembler de la science-fiction. Je l'ai vu, moi, de mes yeux vus, comment ça fonctionne, entre autres au Centre de recherche cerveau, ici à Québec. Donc, effectivement, vous savez, l'infiniment petit qui est dans notre tête, maintenant, on a accès à ça. On peut grossir là, des millions de fois. Là. Donc, vous savez, une personne qui naît avec un handicap physique au niveau des membres, c'est visible à l'œil nu. Mais moi je pense, j'ai eu un handicap, on appelle ça l'handicap du psychisme, qui est dans l'infiniment petit, qui ne fonctionne pas. Puis, il y a toutes sortes de moyens pour rétablir les connexions dans le cerveau. Là, bon, il y a la médication, il y a aussi les thérapies psychosociales, il y a plusieurs formes. Là. C'est important de souligner, prendre juste une pelule, c'est pas ça qui va tout résoudre non plus. Là. Mais vous savez, moi, je travaille beaucoup présentement avec les cliniques des premières psychoses au Québec. Si on peut prévenir des psychoses, on peut prévenir que les gens tombent dans de tout perdre avant que ça arrive, mais mon Dieu, tant mieux, parce que nous, j'ai envie de dire, on ramasse en guillemets des gens là, qui ont 17-18 ans, qui ont consommé des drogues, puis là, ça a déclenché des psychoses, puis ils lâchent les études, ils lâchent le travail, ils ont plus d'amis. Vous savez, quand une maladie comme la mienne,
ça détruit une vie.
Ça détruit une vie totalement. Les proches aussi sont dans la souffrance. Fait que Dieu sait qu'avoir des outils diagnostiques comme ça, même si c'est qui va nous permettre de dire, ben là, il y a un potentiel de schizophrénie ou de dépression sévère aussi. Puis je rajouterais en particulier les hommes. Nous autres, les hommes, là, on va pas consulter, hein, vous savez, on attend que ça pète. Donc, si on pouvait prévenir ça aussi, ben ça pourrait aider.
Est-ce que ce genre d'outils s'y était disponible alors que vous aviez 17 ans et que vous viviez, vous commenciez à avoir les premiers symptômes de votre schizophrénie, vous pensez qu'il aurait pu, que votre vie aurait pu être différente?
Ben moi, je dis que oui, absolument oui, parce que quand la maladie commence à s'installer, vous savez, il y a beaucoup de stigmatisation au niveau de la maladie mentale. Puis cette stigmatisation vient souvent parce que, hélas, tu sais, quand quelqu'un commet un meurtre horrible, c'est sûr que les médias en parlent, là, c'est un fait, là, c'est pas inventé par personne, mais les gens retiennent ça, tu sais, ils retiennent ça de la maladie. Alors, les gens n'osent pas aller consulter, puis ils disent non, moi, je serai jamais comme ça. Mais souvent, si avoir eu, ben, tu sais, je suis remarié aujourd'hui, mais ma femme de l'époque, ben, c'est sûr qu'elle a divorcé, elle comprenait pas ce qui se passait, oui. Puis bon, mais si elle avait su, je suis pas à sa place, mais peut-être qu'elle elle aurait eu une attitude différente, là. Puis pareil aussi, j'ai la chance d'avoir deux enfants, donc eux aussi de pouvoir leur expliquer, ben tu sais, papa, c'est une maladie, gars, on en a une preuve là. Fait que ça aide beaucoup. J'en suis convaincu, moi. Puis plus qu'on va avoir d'outils comme ça, plus on va pouvoir démystifier puis lutter contre la stigmatisation là en santé mentale là qui est très présent présentement.
Et oui. On a encore beaucoup de job à faire en matière de lutter contre la stigmatisation des maladies mentales. Luc Vigneault, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes conférencier, auteur, accompagnateur et schizophrène.
Si je peux me permettre, je sors un livre sur la stigmatisation là, qui va être disponible au mois d'octobre, que j'écris avec la psychologue Tania Lecomte. Donc, on va être dans toutes les bonnes librairies, comme on dit.
On va lire ça, puis on va vous réinviter pour que vous venez nous en parler.
Vous êtes bien aimable. Merci à vous. Merci. Puis bon après-midi.
Au revoir.
Des analyses sur le monde sans frontières. Savoir et comprendre l'international. Guillaume Lavoie.
Poutine mobilise 300 000 soldats. Certains parlent d'un aveu d'échec. Lui, il parle de la capacité d'utiliser tout ce qu'il y a comme arsenal, on en déduit l'arme nucléaire. Guillaume Lavoie, est-ce que c'est un bluff de Poutine ou est-ce qu'on devrait avoir peur?
Bonjour Yasmine, c'est à la fois décourageant, un peu inquiétant, quelque peu angoissant, mais il y a quelque chose de profondément déroutant dans tout ça. Là. Comment un leader, un pays qui faisait partie du G8 jusqu'à récemment, peut se fourvoyer à ce point. Et c'est quand même extraordinaire. Là. Pour quelque chose, je le rappelle, il n'y a pas de guerre, là. Ça n'existe pas. Il y a une opération militaire spéciale. Ce qu'elle a de très spécial, c'est qu'elle est un échec monumental là, pour l'instant. Au point où Vladimir Poutine a dû dire, ben, je vais mobiliser 300 000 réservistes. Alors, c'est quand même pas rien. Là, juste pour vous donner une ordre de proportion, l'armée russe, avec des soldats en uniforme, enrôlé, l'armée normale, si on veut, c'est 1,5 million d'hommes. Alors, c'est comme si je mobilisais 13% de plus.
C'est
quand
beaucoup.
Même majeur, là. C'est énorme. Et c'est comme la cinquième d'une série de stratégies pour essayer d'augmenter la main-d'œuvre. Alors, stratégie 1, c'était, bon, ben là, finalement, je vais essayer d'augmenter en amenant plus de gens, en disant les conscrits. Ça, c'est ceux qui font leur service militaire. Ceux à qui on dit, vous faites votre service militaire, mais vous irez jamais en situation de combat, c'est ce qu'on dit à leur mère. Ben non, ils se retrouvent sur le front ukrainien. Ça marche pas, j'ai pas assez de monde. Je recrute en multipliant par 3 le salaire que j'offre, 3 fois le salaire moyen, des primes aux familles. J'offre aux prisonniers, je peux baisser ta sentence en échange que tu habilles en hiver et que tu ailles sur le front. Ça marche pas. Autre stratégie, ben j'avais dit il y a semaine que tu étais engagé pour 3 mois sur le front ukrainien, mais une fois que tu es sur le front, je te dis, sais-tu quoi?
Tu peux pas revenir.
Long, finalement. Et là, ben là, on est rendu à presque le seul pas avant de mobilisation générale. C'est quand même majeur, c'est 300 000 personnes. Et c'est quoi un peu l'impact sur le front? C'est-à-dire ceux qui sont les Russes comme les Ukrainiens, là, sur le front, comment ils vivent ça? Est-ce qu'il y a des inquiétudes particulières? Ben, du côté de l'Ukraine, je vous dirais que c'est pas certain qu'ils sont si inquiets que ça. D'abord, il y a une consécration que si ça allait... C'est clair que ça va bien leurs affaires, parce que si ça allait bien pour les Russes, ils seraient pas en train de dire « j'ai besoin de 300 000 soldats de plus ». En plus, les 300 000 soldats, ils sont pas dans un avion au-dessus de l'Ukraine sur le bord de se faire parachuter, là. Ça pourrait prendre des mois avant qu'on puisse les extirper de leur vie civile, de les réentraîner, de les déployer, de les armer de nouveau. Ils sont pas rendus, là. Et en plus, tous les problèmes de l'armée russe sont d'être capable de déplacer des troupes. Vous savez, la logistique, là, c'est dans une guerre que ça compte. Il faut être capable de les... Avec quelle arme? Ils vont se promener avec quel char d'assaut? Ceux qu'ils ont laissés presque flambant neuf sur le front en se sauvant. Alors, c'est une armée maintenant qui est mal commandée, mal équipée, mal déployée. Alors, plus de soldats là-dedans, ça fait pas nécessairement une bonne chose. Mais pour arriver à les rendre sur le front parfaitement opérationnels, on parle de jusqu'à 4 à 6 mois. Donc, vous voyez qu'on a le temps de faire passer l'hiver comme il faut, là. Et les problèmes ne sont pas réglés. Mais regardez du côté russe, il y a aussi des inquiétudes. D'abord, une conscription totale ou partielle, c'est rarement populaire.
Ah, il n'y a personne qui aime ça. Populaire. Mais là, on commence à voir, ça commence à se fragmenter, là, l'appui.
Officiellement, moi, je serais plus inquiet des mères russes qui voient leurs enfants peut-être se faire mobiliser. Ça change un peu la chose. Les soldats russes qui ont le moral dans les talons se disent « Wow! » Pour me sortir de mon pétrin, on va m'envoyer un paquet de recrues mal entraînées, pas nécessairement mieux équipées.
Qui veulent pas être là.
Ils prennent pas comme un vote de confiance, là. Et à la fin, ce que je vous dirais, ce qui est le plus inquiétant, c'est le discours du président Poutine. Qui dit, comme si de rien n'était, ben vous savez, on pourrait utiliser toutes sortes d'armes. Tout le monde comprend ici qu'on parle soit de l'arme nucléaire, soit des armes bactériologiques ou chimiques. Et là, est-ce que ça arriverait par accident ou un faux accident? Alors là, ça devient plus inquiétant parce que la seule manière de gagner une guerre nucléaire, c'est de ne pas la mener.
Absolument.
On voit que le problème avec Vladimir Poutine, c'est qu'il n'y a pas de voie de sortie. Il n'y a pas de plan de retraite pour un dictateur comme il l'est. Le seul plan, c'est de se faire zigouiller ou de mourir dans sa chaise. Alors, on en est rendu presque à espérer seulement que... On pourrait avoir un peu que les choses se calment pendant l'hiver, mais le plus inquiétant pour moi, c'est que Vladimir Poutine a toujours dit qu'il pourrait utiliser l'arme nucléaire, pas seulement dans le discours d'hier, pour défendre si le territoire russe était menacé. Et là, la grande question, c'est
qu'est-ce qu'il considère? C'est quoi les frontières du territoire russe, lui, qui veut mener des référendums fantoches?
Est-ce que c'est la Russie de base? Est-ce que c'est le Donbass, les républiques indépendantes qu'il a annexées à la Russie? Est-ce que c'est la Crimée? Qu'il a annexé au territoire russe il y a déjà 8 ans de ça, parce que pour les Ukrainiens, il n'est pas question de laisser aller ça du tout, là. Alors, elle est où la ligne rouge, sans faux jeu de mots? Et ça devient un enjeu, mais plus il parle de l'arme nucléaire avec une certaine légèreté, plus ses alliés, l'Inde et la Chine, qui ont aussi des puissances nucléaires, vont être de plus en plus nerveux. Quand vous avez un ami qui commence à déraper, c'est un peu plus difficile d'étendre votre solidarité. Alors, moi, je reste dubitatif sur une utilisation potentielle, mais dès qu'il y a du nucléaire dans le décor, il est impensable de se dire qu'on est au risque zéro, ne serait-ce que l'accident. Alors, on continue à suivre ça.
Guillaume, la réaction de la Chine hier marquait quand même un tournant dans ce conflit-là où elle prenait plus de distance.
Oui, et quand la Chine dit « on a des inquiétudes »,
qu'on réclame un cessez-le-feu?
Quand on demande un cessez-le-feu, on est loin de... peut-être que l'amitié ultime ou l'amitié limitée, c'est d'être capable de dire la vérité à son ami, mais si vous et moi, on en entend parler, c'est parce que tous ces messages-là, en privé, n'ont pas passé. La Chine veut laisser savoir au reste du monde qu'elle n'est pas l'allié engagé pleinement derrière Vladimir Poutine. Et ça, c'est la preuve que si Vladimir Poutine était très isolé face au front de l'Ouest, face à l'Occident, il l'est de plus en plus même dans son groupe à lui. Et ça, c'est peut-être la nouvelle la plus désarçonnante pour Vladimir Poutine dans tout ça.
Il y avait aussi ces rumeurs-là qui disaient que la Corée du Nord pouvait dépêcher quelques soldats pour venir en aide à travers le train là de la Transsibérie jusqu'au à l'ouest de la Russie finalement pour donner un coup de main à l'armée russe. Est-ce que c'est plausible? Ouais. Est-ce que la Chine permettrait de faire ça?
D'abord, tu fais très bien de le mentionner, Yasmine, qu'il n'y a rien qui se passe en Corée du Nord sans que la Chine soit d'accord ou pas d'accord. À la fin, la Corée du Nord, c'est un pays qui a de la misère à se nourrir. Ils sont bien bons pour faire des défilés, mais je pense pas que ce soit une force militaire parfaitement entraînée. Imaginez, si on se rend compte à l'usage que l'armée russe est mal équipée, mal dirigée, imaginez l'état de l'armée nord-coréenne pour déployer un contingent suffisamment important. Pour chaque soldat au front, ça en prend plusieurs derrière pour l'alimenter, gérer la logistique. Alors, il est possible que la Corée du Nord possède des armes de destruction massive, mais de là à penser que c'est une force conventionnelle qui pourrait se déployer et changer l'ordonnation du conflit, je pense qu'on est plus dans l'ordre des Nord-Coréens ou du dictateur nord-coréen qui se fait désaccroire.
Ça risque d'être tout un conflit, tout un sujet qu'il va falloir surveiller parce que s'il nous dit que c'est pas du bluff, la menace, si elle est réelle, ça devient une guerre contre l'Occident et qui dit guerre contre l'Occident dit que le Canada, les États-Unis et tous nos alliés y prendre part et rien pour nous rassurer. Sinon, parlons des États-Unis, Trump qui est mis en accusation. Est-ce que ça va vraiment coller cette affaire-là, Guillaume? Parce qu'on dirait que j'y crois plus, là, tu sais, toutes les accusations qu'il y a contre Trump, toutes les allégations qu'il y a contre lui, il me semble qu'il est fait en téflon, pareil.
Oui, il est vraiment fait en téflon, mais là, il vient de se faire donner un gros chandail fait en velcro. Parce que ça fait quand même 2 ans que l'équivalent du ministère de la Justice de l'État de New York prépare son dossier. Et les accusations déposées sont au civil, donc le fardeau de la preuve est plus bas, peut-être pas contre tout doute raisonnable, ici c'est la preuve prépondérante, et il se fait accuser de choses qui sont profondément humiliantes pour lui, c'est-à-dire de faire croire qu'il y a de l'argent qu'il n'y a pas, juste parce que ça a l'air mieux. Là. C'est un peu comme si vous voulez avoir l'air plus important que vous êtes à votre club de golf, puis là vous vous dites, savez-vous quoi, je vais dire que ma voiture vaut 300 000, vu que j'avais 200 000 l'an dernier. Je vais vous donner un exemple qui montre un peu, je dirais, le côté égomaniaque là, de la chose. Il aurait déclaré que son penthouse à New York est 20 000 pieds carrés plus grand que ce qu'il est en réalité.
Wow, OK.
Alors, imaginez la grosseur de vos apparts là, ou de vos maisons. Se tromper de 20 000 pieds carrés, là, c'est assez spécial, là. Et là, il s'expose à des peines. C'est pas juste lui qui est mis en accusation, c'est tous les membres de la famille qui sont propriétaires ou dirigeants de l'organisation de Trump. Mais ils pourraient être condamnés à payer des millions de dollars, voire des centaines de millions de dollars, pour avoir fraudé. Et je le rappelle, frauder l'impôt, c'est avec ça qu'on a réussi à mettre Al Capone en prison. C'est très grave. Et c'est juste le début parce que tout ce qui relève du criminel, donc des peines de prison, la tournée générale de New York a envoyé ça au fédéral. Et là, c'est dans les mains de l'équivalent de Revenu Canada. C'est pas des gens qui entendent à rire beaucoup, là. Alors, ça ne fait que s'ajouter. Nouvelle cocasse, même depuis une cellule de prison, il pourrait être candidat à la présidence et théoriquement être élu parce que la Constitution ne fait que dire qu'il y a deux conditions. Il faut que tu aies 35 ans et que tu sois né aux États-Unis. Aucune autre loi, à moins de modifier la Constitution, peut venir restreindre ce droit-là. Mais je pense que la grande question, c'est est-ce que ça va nuire à sa candidature? Peut-être. Mais d'un autre côté, ça permet à Trump de jouer ce rôle de victime. Parce qu'à la fin, la ministre de la Justice, c'est une démocrate. Elle n'a pas Trump dans son cœur nécessairement. Et s'il se porte candidat, il pourra littéralement être dans son plein rôle. Alors peut-être que toutes ces poursuites-là vont le forcer à être candidat. Et là, il va devoir se regarder dans le miroir, faire semblant de garder son image de gagnant ou poursuivre jusqu'à la fin. Peut-être que pour des raisons très différentes, pour lui non plus, l'autre étant son ami Poutine, il n'y a pas vraiment de plan de sortie élégant dans tout ça.
C'est à suivre. Trump n'a pas fini de faire l'actualité et d'alimenter nos discussions. Guillaume Lavoie, merci beaucoup. On se retrouve demain.
Bon plaisir.
Ex-conseillère politique. Et ça fait bien notre affaire. Yasmine Abdel-Fadel.
C'est toujours un comté très, très baromètre.
Marie Montpetit.
J'espère que ce gouvernement-là va en faire beaucoup plus qu'il en a fait jusqu'à maintenant.
On fait quoi?
Patrick Derry.
Pour sortir de ça, pour éviter de se reparler dans un an.
La rencontre Derry Montpetit.
La rencontre Derry Montpetit, oui, mais c'est surtout Marie et Patrick que je veux entendre parce que, les amis, on l'a retrouvé. On sait où? Jean-François Roberge est sorti de sa tanière. Il est sorti hier. On ne sait pas il est où aujourd'hui, mais on l'a vu hier.
Ouais.
Et on l'a vu où?
On l'a vu chez Paul Larocque. Écoute, il était là pour nier l'importance des aérosols dans la transmission de la COVID. Et là, je sais que personne ne va entendre parler de la COVID. Même moi, là, je suis vraiment... J'ai juste mon voyage d'en parler.
T'es pas écœuré, toi?
Oui, j'étais écœuré, mais c'est parce que le virus, lui, il est pas écœuré. En tout cas, bref, ça pour dire que M. Roberge a fait une sortie absolument lamentable parce que c'est le ministre de l'Éducation, puis essentiellement, il a nié l'état de la science. Fait que c'est là qu'on est rendu.
Mais là, je veux faire l'avocat du diable. Là. C'est quand même la santé publique qui n'a pas voulu recommander la ventilation.
Ah oui! Non, mais c'est la santé publique, c'est sûr que c'est un problème, mais je veux dire, à un moment donné, c'est soit que les lois de la physique sont différentes au Québec, ou soit qu'on a un problème à la santé publique puis au gouvernement.
Mais Marie, doit-on le reprocher à Jean-François Roberge ou est-ce qu'on doit le reprocher?
Non, absolument. Moi, je suis absolument d'accord avec Patrick là-dessus. Écoute, il aurait dû continuer à être où est-ce qu'il était, c'est-à-dire je sais pas trop où depuis le début de la campagne. Sa sortie est tellement déplorable, je ne peux pas croire qu'il s'en va faire une entrevue puis qu'il s'en va. Tu sais, c'est aussi déplorable que, je veux dire, nier l'enjeu de la ventilation dans la COVID, là, c'est comme dire que la Terre est plate. Là. On est dans le même calibre. Il n'y a aucune ambiguïté scientifique là-dessus. Donc, je ne comprends pas pourquoi il est sorti hier faire cette entrevue-là.
En plus de ça,
dans un contexte où le premier ministre disait que c'était pas clair qu'il était dans son pool de conseil des ministres.
Mais là, je nous trouve un peu sévère là, parce que je me dis, imaginez si lui, il avait contredit la Direction nationale de la santé publique puis il avait dit, tu sais quoi, non, moi, la ventilation, je la veux partout puis vous avez beau me donner vos recommandations, je vous écoute pas. Est-ce qu'un ministre au Québec, durant la période la plus importante de la pandémie, peut se permettre de ne pas écouter la Direction nationale de la santé publique?
Ouais,
on va mettre plein de bémols là-dessus. Hein, parce que la santé publique, c'est celle qui disait en début de pandémie qu'il fallait pas mettre de masque parce que le masque, c'était un faux sentiment de sécurité. Puis écoute, j'aurais de la difficulté à me rappeler
Je m'en rappelle, mais on va faire la chronique là-dessus. Mais c'est parce que c'est ça, c'est qui écoute qui là-dedans. Puis à un moment donné, là, tu sais, c'est pas une question d'opinion. Il y a un consensus massif. Puis en plus, comme je dis, là, je pourrais en parler pendant 20 minutes, là, mais le nombre de fois où la santé publique s'est plantée. En fait, le gouvernement a fini par faire presque tout ce que la santé publique disait qu'il ne fallait pas faire, sauf la ventilation.
Ben, les tests rapides aussi, hein? Combien de fois on a eu cette discussion-là? Moi, je me souviens pas le nombre de fois que j'ai posé des questions en chambre pour insister pour que les tests rapides. Puis là, on est passé de c'est dangereux, c'est un faux sentiment de sécurité assez pas fiable. Ben, finalement,
à peu près comme les masques.
Un an et quart plus tard à en distribuer partout. Un an et quart de pandémie, là.
La vaccination des travailleurs de la santé, la troisième dose aux travailleurs de la santé puis au grand public. Il y a un paquet de choses, non? Vraiment, là. C'est une question de leadership politique aussi, là.
Ben là, sortons de la ventilation. Parlons d'environnement. L'environnement va être au menu de ce soir. Ce soir, c'est le débat de Radio-Canada. Et là, vous allez entendre plein de belles promesses. Patrick, à combien on devrait mettre la cible de diminution des gaz à effet de serre? Parce que j'ai l'impression que c'est celui qui donne le plus gros chiffre qui est meilleur.
Ouais. C'est comme une version de poche de The Price is Right. C'est juste pour rappeler, la cible par rapport à 1990, c'est de réduire de 37 %. Puis là, le gouvernement a choisi 37 %, le gouvernement libéral de l'époque. Puis c'est 37,5 puisque l'Ontario, c'était 37. Fait qu'on est 0,5 de plus. La CAQ était au même endroit. Les péquistes sont à 45. Québec solidaire est à 55. Mais c'est parce que ça a baissé de 3 % en 30 ans. Il reste 10 ans parce qu'on a les chiffres de 2020, c'est long à calculer, là, pour faire le reste. Tu sais, on est peut-être commencé à dire qu'écoutez, gang, c'est peut-être important, mais là, on va agir, mais ces cibles-là, là, ça arrivera pas. Ça arrivera juste pas.
Écoute, ça me fait de la peine de t'entendre, Patrick, dire ça. Moi, j'ai super hâte au débat ce soir. Puis, je suis vraiment contente parce que la première demi-heure, la première portion, c'est quand même celle qui est la plus écoutée généralement. Je suis enfin contente qu'on parle d'environnement. Puis là, il y a quand même deux visions qui s'affrontent, là, si on y va principalement sur celle de la CAQ et celle de Québec solidaire. Tu sais, on l'a vu, le gouvernement de la CAQ, pas accompli grand-chose en 4 ans. Là. Je veux dire, quand on voit toutes les sonnettes d'alarme, le GIEC en matière d'environnement, c'est ça. Mais quand on voit en plus de ça dans un contexte où il n'est plus minuit moins une, là, il est minuit moins 12 secondes.
Il est minuit
et quart même, c'est ça exactement. Là. Puis la question, c'est qu'à un moment donné, on arrive à un moment où ce rattrapage-là ne pourra plus se faire. Puis on sait qu'on a un gouvernement de la CAQ qui le dit très ouvertement. Puis quand tu regardes leur programme, là, c'est pas bien ambitieux non plus ce qu'ils vont faire. Donc j'ai assez hâte de voir
mais
ce débat-là.
Mais c'est quoi qui est plus important, Marie? Avoir de l'ambition ou d'avoir les actions pour répondre?
Ah, c'est les actions. C'est pour ça que moi, le débat des chiffres, tu sais, la question des cibles, je pense que c'est important d'être en phase avec l'international, avec ce que nous dit l'OMS, entre autres, avec ce que nous disent les grandes organisations, les GIEC, tout ça, les experts internationaux. Une fois qu'on a dit ça, ce qui est important, c'est ce que tu fais au day-to-day, là. Je veux dire, c'est les actions qui vont être posées. C'est pour ça que je regardais le programme de la CAQ. C'est pas inintéressant ce qui est proposé. Au contraire, la mise en place de nouveaux parcs nationaux, tout ça, c'est beau. Mais je veux dire, c'est pas ça qui va faire qu'on va renverser la tendance au niveau de la production de GES, là.
Mais est-ce qu'on peut se permettre de voir ça de manière plus globale, pas juste de manière qu'est-ce que le Québec diminue comme émission de gaz à effet de serre? Je vous donne un exemple. On a des mines de lithium que l'on peut exploiter. Exploiter une mine, tu produis du gaz à effet de serre. Mais si tu arrives à exporter puis à faire en sorte qu'il y ait plus de batteries pour voitures électriques à travers le monde, globalement, sur le point de vue international, tu contribues à ce que d'autres États diminuent leur gaz à effet de serre. Qu'est-ce qui est plus important, que nous, on atteigne nos objectifs, ou est-ce que collectivement, il faut qu'on atteigne nos objectifs? Ça demande des sacrifices.
Bien, c'est sûr qu'il y a toujours ce discours-là de même si demain matin, le Québec devenait parfait et carboneutre, ça compensera jamais à l'intérieur. On ne vit pas dans une bulle de verre, donc ça compensera jamais pour ce qui est fait dans d'autres pays à l'international qui, eux, sortent d'une certaine dynamique de tiers-monde, par exemple, et qui, là, se mettent à être des consommateurs, ce qu'on a fait depuis 50 ans. Une fois qu'on a dit ça, moi, je pense que ce qu'il faut aborder, c'est toute la question du transport. Je rejoins assez les propositions de Québec solidaire sur tout le transport en commun.
Non,
mais je suis assez d'accord aussi. Mais tu sais,
c'est le plus grand producteur de GES, c'est le transport.
Un tramway à 4,1 milliards de dollars à Sherbrooke. Les idées, c'est bon. La faisabilité, on passe à côté?
Ça, c'est une idée, c'est une proposition. Moi, je te parle de façon globale. Je pense qu'il faut mettre l'accent. C'est un enjeu, prendre le train. Je veux dire, je l'ai fait pendant des années, aller à Québec toutes les semaines. Il y a des milliers de travailleurs qui vont à Québec toutes les semaines. Je veux dire, t'as 2 trains par jour, un à 6h le matin, 6h le soir. Il est tout le temps ralenti, il est tout le temps été. Il y a des enjeux de transport au Québec qui, honnêtement, on prendrait beaucoup moins notre voiture solo si on mettait l'accent sur le transport en commun.
On a un corridor là, entre Québec, mettons, Toronto. Tu sais, je sais pas, il y a peut-être 20-25 millions de personnes. On pourrait avoir un train à grande vitesse là-dedans, là, par exemple. C'est quelque chose qui, évidemment, là, ça dépasse les frontières du Québec. Tu as parlé des mines, Yasmine, je suis d'accord. Mais le gros secteur, c'est les transports, puis c'est l'auto solo. Puis la CAQ, on dirait, tu sais, OK, on va faire un parc à gauche, à droite, mais c'est parce que l'éléphant vert, en tout cas gris, blanc dans la pièce, c'est les gaz à effet de serre. C'est là-dessus qu'il faut travailler. Fait qu'il faut augmenter massivement l'offre de transport en commun. Puis c'est sûr que ça va coûter super cher parce qu'on n'a rien fait depuis 60 ans, tu sais, à part un peu le métro à Montréal.
Si tu me permets d'ajouter, si moi j'avais fait une rencontre quand j'étais porte-parole en environnement, j'avais trouvé ça extraordinaire. Tout ce qui est technologie, verte, tu as des milliers de camions qui prennent la route chaque jour, puis tu as des entreprises de camions, par exemple, qui ont mis du solaire sur les toits pour réfrigérer automatiquement, solairement, si on veut, les camions. Tu sais, il y en a des solutions aussi qui vont diminuer l'utilisation de GES.
Des ambulances électriques éventuellement dans quelques mois qui vont pouvoir prendre la route, des au propane également. Je sais que c'est moins propre que l'hydroélectricité, mais c'est toujours mieux que...
Donc, il y en a des solutions. Moi, j'aimerais ça entendre ce soir des partis qui vont les mettre, pas une guerre de chiffres, justement. Moi, là, 37, 50, 32, 47, là, ce que je veux savoir, là, c'est qu'est-ce que tu vas faire concrètement à partir du 4 octobre pour les 4 prochaines années, parce que ça file vite le temps, là.
Le temps file vite et le temps de la chronique aussi. C'est pour ça que je veux absolument qu'on parle des promesses amusantes. Amusant dans le sens monde des licornes, irréaliste, on fait un rêve. Puis là, j'ai l'impression que depuis qu'on parle déjà de l'environnement, on est déjà dans le monde des promesses amusantes avec 55 ans de baisse des émissions de gaz à effet de serre sur 10 ans. C'est pas mal le monde des licornes, là-dedans.
C'est un peu le même domaine. Moi, je faisais le lien, par exemple, parce que tu sais, le PLQ, par exemple, il promet un médecin de famille pour tout le monde. Mais je veux dire, c'était la promesse de la CAQ en 2018, puis on est passé de 400 000 Québécois qui attendaient à un peu plus de 1 million, puis un peu moins, là, parce qu'en tout cas, bref, on a fait pas de la manipulation, mais en tout cas, on a attribué à d'autres professionnels que des médecins. Je suis pas convaincu que ça va fonctionner, mais il y a à peu près 1 million de Québécois qui attendent quand même. On a encore la même promesse. 100 GMF de plus. Et qui vont être ouverts 24 heures sur 24. Pouf! Tu sais, je sais pas où est-ce qu'on manque d'infirmières, on manque de médecins, on va avoir 100 GMF de plus. Ça, c'est les libéraux, mais la CAQ a des promesses à peu près semblables. Le Parti libéral promet aussi 4000 lits d'hôpital de plus. C'est formidable.
Mais pourquoi on les ferme pendant l'été si on a besoin de plus? Il y en a qui se ferment.
C'est parce qu'on manque de monde. On a 16 000 lits d'hôpitaux, plus ou moins 16 000, 17 000. OK, 4 000 lits, parfait. Je veux dire, on va tant qu'à ça, 10 000, 20 000, 50 000.
Mais on a personne pour les supporter. Oui, je suis ébahi par la faiblesse. T'sais, on en a parlé, je pense, il y a 2 semaines, du fait, que la santé prend vraiment pas beaucoup de place dans cette campagne électorale-là, alors que les enjeux dans le réseau de la santé sont foudroyants. Là. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de Québécois à qui on peut parler, qui ne connaissent pas, ou s'ils ne sont pas concernés directement à être en train de chercher un médecin de famille, ont un voisin, une amie ou quelqu'un qui est sur une liste d'attente en chirurgie. Non seulement les partisans en parlent presque pas, mais leurs propositions sont d'une pauvreté
faiblesse.
Et faiblesse. Absolument. Et irréaliste de dire, justement, comme on le disait, on va former 1000, il va y avoir 1000 médecins de plus sur dans le réseau. Tu vas les trouver où? Ça prend 10 ans les former.
Je vais dire quelque chose que tu n'aimeras pas, parce que je pense que les deux partis qui ont les meilleures propositions, c'est la CAQ et le Parti conservateur. Ça me fait de la peine un peu de l'admettre, là, mais la CAQ, le plan Dubé, globalement, il est bon. C'est par exemple de donner la pleine autonomie professionnelle à tout le monde sauf les médecins, là, c'est un méchant goulot d'étranglement. Mais est-ce que les conservateurs veulent faire, par exemple, d'avoir une diversité de fournisseurs à l'intérieur du système public, comme ça se trouve en Europe et ailleurs? Puis d'ailleurs, tu sais, plein de médecins présentement sont là. C'est épouvantable, le privé, les patients vont sortir leur carte de crédit. J'ai câline, on est passé ce débat-là. Ouais. En France, 30% et plus des hôpitaux sont privés à but lucratif. Là, tout le monde est couvert pareil, là, ça change rien.
Mais
ça.
Si on gratte ça...
Ouais.
De toute manière, il n'y a pas plus de personnel. Mais parce qu'il y en a juste qui vont quitter le privé et le public pour aller au privé.
C'est exactement ce
puis,
que j'allais dire.
On n'a pas plus formé parce qu'on a des hôpitaux, des mini-hôpitaux privés, plus de médecins.
Par exemple, tu me parles de la proposition de la CAQ. Si on y va sur les... Ils ont promis 2 mini-hôpitaux privés.
C'est ça.
OK, fine. Mais je veux dire, le personnel va venir d'où? Ils vont venir d'où les médecins? Ils vont venir d'où les inhalothérapeutes? Ils vont venir d'où les infirmières? Donc, on va drainer ce qu'il y a dans les... Au lieu de renforcer le réseau public, on va aller faire un système parallèle qui sera pas plus efficace, pas plus efficient,
non,
pas
non,
moins
mais c'est,
coûteux.
Non, c'est là je suis pas d'accord avec toi, parce que l'expérience avec les cliniques médicales privées, t'sais, Rockland puis le 10-30, ils ont mesuré le output, en tout cas, excusez du mauvais mot, mais la production chirurgicale.
Et ça, c'est un exemple.
Ben c'est 3 parce que tu es UpMedic, bon. Et ce qu'on se rend compte, c'est que la productivité est à peu près 20 à 40% plus élevée de la vie des médecins qui travaillent là. Puis c'est, il explique pourquoi, par exemple. Si je me rappelle, je pense que c'est la docteure, une chirurgienne oncologue, docteur Sinot, peu importe. Elle disait, moi, à l'hôpital, une bonne journée, j'en fais 4-5, mais des fois, c'est 0. Quand je suis en clinique, j'en fais 8 ou 9. Pourquoi? Parce que les plateaux sont prêts, sont organisés sur le même étage. Puis ça, je veux dire, c'est pas de la sorcellerie, là. En Europe, on le voit aussi. Fait que des hôpitaux spécialisés, sans dire que c'est du travail à la chaîne, parce que ça peut faire peur un peu en santé, c'est pas mal plus efficace. Tandis que là, les autres peuvent rester sur les colos. Fait que tu sais que le personnel, moi, peu importe où est-ce qu'il est, le médecin, là,
la différence, c'est que les hôpitaux privés peuvent aussi choisir leur cas, chose que l'hôpital public ne peut
pas
faire.
Non, mais ça, faut pas qu'ils le fassent. T'as raison. Faut absolument pas.
C'est Patrick, j'allais te dire, là, tu sais, tu parles de 3 situations, mais t'as des méta-analyses qui ont été faites de toutes les situations au Québec. Il y a aucune justification qui démontre que le privé a été moins coûteux. Au contraire, c'est 19% plus coûteux. Il n'y a aucune démonstration que c'est plus efficace. Puis les cas, c'est sûr que le privé, nous, on est très, très en désaccord avec Patrick sur ces questions-là.
Il y a la façon dont les coûts ont été intégrés là-dedans, parce qu'il y a des expériences européennes à beaucoup plus large.
Je parle pas d'Europe, je parle du Québec. Le Québec, on a un modèle qui est différent. On a des médecins de famille qui sont obligés de faire...
un modèle qui marche pas.
Par exemple, les médecins de famille sont obligés d'aller aux urgences. C'est un modèle qui est différent.
Oui,
ça marche, ça marche pas. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est faut comparer des pommes avec des pommes, des oranges avec des oranges. T'sais, c'est pas pareil.
Mais je vais t'en donner.
Canada,
je t'en donne des pommes et des pommes. Les CHSLD, je parle comme docteur Arruda. CHSLD privé conventionné, puis les CHSLD publics. On parle pas du privé là, parce que c'est tout croche. Ils ont le même financement, les mêmes conventions collectives, les mêmes enveloppes de soins, puis ainsi de suite. Et c'est drôle, les indicateurs sont vraiment beaucoup supérieur. Moi, j'ai regardé ça de près, puis ça fait longtemps que c'est comme ça. Fait que donc, à coût égal, c'est beaucoup, beaucoup mieux pour les patients, pour les milieux de vie. Pourquoi? Parce que, à un moment donné, ils sont un peu plus débrouillards pour les trucs administratifs. Ils peuvent pas rogner sur les soins en passant, il n'y a pas de permission.
Mais je te parle d'hôpitaux. Toujours d'hôpitaux, de chirurgie. Ouais. Parce que l'exemple que tu donnais, par exemple, à Rockland et compagnie, puis c'est vrai, là, les médecins, je veux dire, moi, j'ai eu ces discussions-là mille fois avec eux. Quand tu as un plateau de tournage, un plateau de. Un plateau
tout
médical.
Tous des acteurs, en fait, il y a personne qui est malade là-dedans.
Oui, c'est comme aller chez le dentiste. Il y a quelque part où ton plateau est déjà prêt, tes outils sont stérilisés, puis là, c'est bon, mais aujourd'hui, on fait 30 opérations du même coup. C'est sûr que ça va beaucoup plus vite, mais il y a un danger de prendre seulement, et c'est ce qui se passe à chaque fois. Les cas qui sont plus faciles, les cas qui vont bien, et de laisser le reste au public. Donc là, ça veut dire que tu engorges le public, tu lui crées encore plus de difficultés. Moi, je pense que les deux mini-hôpitaux privés, les infirmières et les analthérapeutes, ils vont se garrocher pour aller là, c'est sûr. Ça va être nouveau, ça va être neuf, ça va être beau, ça va bien fonctionner.
Mais moi, j'ai une expérience personnelle. Je ne sais pas si vous connaissez la clinique Hop pédiatrique du hockey au 10-30, une clinique pour enfants. En fait, un mini-hôpital pour enfants où tu te présentes là quand ton enfant est malade. C'est fait pour les enfants, tu peux faire tes radios sur place, t'as un médecin, t'as accès rapidement à des soins, peut faire les prises de sang, tout se fait sur place. C'est vraiment un mini-hôpital et c'est d'une efficacité incroyable. Et je pense que, d'ailleurs, on avait reçu Christian Dubé ici, c'est ce modèle qu'ils veulent réitérer un peu partout au Québec. Honnêtement, c'est ça.
Moi, je me rappelle un médecin.
Mais ça reste qu'on manque de ressources humaines. Ouais, mais ça reste que tant qu'il n'y a pas la main-d'œuvre, on manque. Tu sais, tu le mentionnais tout à l'heure, il y a des hôpitaux. C'est fou, là. C'est fou braque. Depuis un an, il y a des urgences, des hôpitaux qui ont fermé à répétition au Québec parce qu'il manquait de main-d'œuvre pendant l'été.
Mais ça, t'as raison. C'est épouvantable. Mais sauf que si le même monde sont capables de produire plus, là, tu sais, même les CLSC. Écoute, moi, il y a un médecin. Moi, j'ai eu des
vaccins. Tes médecins peuvent peut-être produire plus, ouais. Mais tes infirmières puis tes inhalos. Moi, j'ai pas entendu d'infirmière qui me dit qu'elle se tourne les pouces pendant son corps
non.
De travail.
Non, mais sauf
là.
Qu'ils, des fois, ils rament dans le beurre
ils
un peu.
Ils font du TSO, là. Écoute, on est en train de dire est-ce qu'on abolit le travail supplémentaire
les
obligatoire.
Amis,
là.
Les amis, quelle conversation passionnante. Moi, je pense que on peut plus faire de VMX. Là. Il va falloir que vous veniez ici tous les jours, vous chicaner autour de cette table, que je puisse jouer la personne la plus équilibrée dans la gang, là, tu sais, comme de part et d'autre. J'aime ça, vous avoir avec moi. Revenez plus souvent me voir.
Bon, avec plaisir.
On va essayer de faire ça.
À demain.
Ciao.
À demain.
Yasmine Abdel Fadel. Des opinions tranchées, des propos divergents. Pour s'informer tout en divertissement. Savoir et comprendre, Yasmine Abdel Fadel.
L'hôpital Pierre Boucher à Longueuil est pris avec une éclosion d'un super champignon qui s'appelle Candida auris qui aurait fait son apparition au Québec à l'hôpital Pierre Boucher. Et on a aucune idée c'est quoi ce super champignon, donc on veut en apprendre plus. On a avec nous Marc Hamilton, président de l'Association des microbiologistes du Québec. Bonjour, Monsieur Hamilton.
Oui, bon après-midi.
Alors, qu'est-ce qui en est de cet hôpital? Ce champignon. Qu'est-ce qu'on sait sur ce champignon?
Bien, premièrement, le Candida auris est quand même, je dirais, un micro-organisme qui est très récent dans la famille. Ça a été découvert la première fois en 2009 dans l'oreille d'un Japonais. Et le nom auris veut dire oreille, autrement dit, en latin. Donc, pour ça que son nom vient de Candida auris. Ce candida-là, c'est un champignon, on appelle ça une levure, là, mais qui rentre dans une grande famille de champignons. Et présentement, ce candida-là est une maladie nosocomiale, qui veut dire que c'est une maladie qui se trate principalement dans les hôpitaux. Et un peu comme on l'a connu ou qu'on le connaît, là, pour les gens qui connaissent, le Clostridium difficile. Là. On a eu plusieurs éclosions depuis 2004. Comment vous dites?
L'acé difficile, qu'on connaît sous le terme l'acé difficile. La bactérie C. difficile.
Absolument, qui a été un peu en 2004, là, un peu comme on l'entend avec la Candida, ça a fait une boule de neige en 2004 dans des éclosions dans plusieurs hôpitaux du Québec. Et la Candida, elle, ce qui fait cette complexité de ce super champignon-là, c'est que d'un, elle est difficile à identifier. Donc, c'est des méthodes qui sont plus, je dirais, au niveau du séquençage génomique qui permet de l'identifier assurément parce qu'elle se confond plusieurs avec ses sœurs, d'autres types de formes de Candida qui sont plus inoffensives pour l'être humain. Donc, ça demande un petit peu plus de rigueur pour l'identifier. Et quand une personne est infectée, autrement dit, elle est résistante à plusieurs types de traitements antifongiques qui fonctionnent habituellement quand une personne est aux prises avec une candidose quelconque ou une infection fongique. Et qu'est-ce qui fait qu'elle est si dangereuse en milieu hospitalier? C'est qu'elle va s'attaquer principalement à des personnes qui sont immunosupprimées, donc les gens qui ont un système immunitaire beaucoup plus faible. Et le problème, c'est que lorsque les personnes rentrent en contact avec cette candidat-là, et si, autrement dit, ce candidat-là réussit à rentrer dans le système sanguin d'une personne, peut créer des infections sanguines importantes, attaquer le système nerveux central et d'autres types d'organes entourants et cause la mort entre 30 à 60 % des cas.
Donc c'est genre. C'est quand même énorme, là. On peut dire que c'est très dangereux.
Exactement. Donc c'est pour ça qu'il y a un niveau d'alerte assez élevé pour s'assurer que cette candidat-là qui s'attrape par toucher, un peu comme un clostridium difficile. Donc, une personne qui a été infectée, il faut que, justement, désinfecter la chambre, désinfecter tous les endroits que cette personne aurait pu toucher, parce que ça reste quand même très contagieux d'une personne à une autre. Donc, si la personne touche une pièce, une poignée de porte, un barreau de lit, un mur qu'une personne infectée aurait pu toucher, on peut se transmettre par contact. Donc, quand la personne touche avec ses mains, se met les mains, exemple, dans la bouche, donc la transmission va se faire de cette façon-là et peut infecter ou gravement une personne immunosupprimée. Bon, la bonne nouvelle, c'est que une personne qui est normale, une personne qui n'a pas de maladie quelconque ou immunosupprimée, généralement ne causera aucun effet secondaire. L'effet, autrement dit, la personne qui a un bon système immunitaire va être en mesure de combattre par elle-même cette maladie-là. Donc ça reste quand même un défi, un nouveau défi pour les centres hospitaliers, du moins Pierre Boucher et espérant pas d'autres centres hospitaliers au Québec, qui sont aux prises avec cette apparition, cette petite éclosion de cette candidat-là.
Le problème, c'est que là, il faut désinfecter des chambres d'hôpital et c'est pas la désinfection là avec l'eau vinaigrée là qu'il faut faire. Alors on dit qu'il faut y aller avec des produits qui sont assez importants, voire même le changement de certaines surfaces là, les enlever puis en mettre d'autres tellement qu'on n'est pas capable d'aller tout nettoyer. À quel point on peut s'assurer que ça ne voyage pas d'une chambre à l'autre quand on sait qu'il y a des entrées et des sorties dans les chambres d'hôpital?
Ben, la bonne nouvelle, ce que je viens de dire, c'est que c'est pas un virus aéroporté comme est la COVID présentement. Donc, on peut pas attraper cette candidat-là par des micro-gouttelettes dans l'air. Donc, c'est vraiment localisé, généralement, par les surfaces de contact qu'une personne infectée a touché. Il faut prendre un peu cette maladie-là, du moins ce micro-organisme-là, comme la C difficile. Donc, adopter, trouver le bon désinfectant qui sera en mesure d'éliminer ce champignon-là sur les surfaces de contact. Et je dirais pas mettre en quarantaine, mais bien isoler les chambres pour qu'ils soient parfaitement désinfectés après qu'une personne ait été séjournée. Donc ça reste quand même les mêmes types de procédures à utiliser que c'est difficile, mais avec un désinfectant qui aura fait ses preuves contre le candidat.
Mark Hamilton, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes président de l'Association des microbiologistes du Québec. Merci.
Merci, au revoir.
Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous demain, 13h30. Je cède la parole et le micro à ma collègue Sophie Durocher et je vous dis à demain. Cube Radio.